Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Luc. En ce temps-là, tandis qu'il faisait route vers Jérusalem, Jésus traversait villes et villages en enseignant. Quelqu'un lui demanda : Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens à être sauvés ? Jésus leur dit : Luttez pour entrer par la porte étroite, car je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas. Lorsque le maître de maison se sera levé pour fermer la porte, si vous, du dehors, vous mettez à frapper à la porte en disant : Seigneur, ouvre-nous, il vous répondra : Je ne sais pas d'où vous êtes. Alors vous vous mettrez à dire : Nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné sur nos places. Il vous répondra : Je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous-même vous serez jetés dehors, alors on viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Oui, il y a des derniers qui seront premiers et des premiers qui seront derniers. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, vous l'avez sans doute remarqué, les lectures de ce dimanche nous rappelle la mission de l'Église, partie de la Jérusalem terrestre, pour conduire les élus jusqu'à la Jérusalem éternelle, par un chemin étroit. Si étroit que les Juifs ne le voient pas, parce qu'ils veulent voir prophétiser dans notre première lecture le retour contemporain des Juifs en Israël, l'Alia. Alors que l'on ne se déplace plus en chariot ou à dos de mulet, et qu'ensuite du châtiment prédit par Jésus pour l'incrédulité de leur peuple, le temple de Jérusalem a été détruit et que les généalogies sacerdotales et lévitiques ont été effacées. Cette prophétie d'Isaïe annonce le salut des hommes de toute nation et de toute langue, c'est-à-dire l'Église catholique. Catholique signifie universel. Le but de l'histoire est que tous les hommes fêtent avec le psalmiste la fidélité et la puissance de l'amour de Dieu sauveur. En attendant ce jour de fête éternelle, l'épreuve marque la vie de chacun de multiples façons. L'Épître aux Hébreux y voit un bienveillant châtiment paternel destiné à notre croissance humaine et spirituelle, mais toute épreuve n'est pas nécessairement un châtiment mérité, comme nous le voyons dans la vie du Christ, de sa mère et des saints. C'est alors qu'il faut comprendre que si Dieu permet l'épreuve, parfois comme conséquence du seul péché originel, c'est dans l'espérance que nous saurons y voir l'occasion de lui témoigner notre amour. Car enfin, aimer quand tout va bien, cela est facile, tout le monde peut le prétendre. Ce n'est pas lorsque vous avez de l'argent plein les poches que vous pouvez connaître quels sont vos vrais amis. Mais c'est lorsque vous êtes dans la misère, car ce seront eux qui prendront de la peine pour vous. Ainsi, Dieu veut nous voir utiliser les difficultés comme autant d'occasions de lui montrer que nous l'aimons vraiment, c'est-à-dire pour lui-même et non pas pour ce qu'il nous donne. Voilà la porte étroite par laquelle il faut passer pour aller au paradis, être prêt à tout sacrifier pour son amour, à qui nous devons tout. D'ailleurs, comment aller au paradis, qui est Dieu même, si le chemin qui y est conduit n'est pas l'amour de Dieu? Et comment cet amour ne serait-il pas absolu si Dieu est infini? C'est pourquoi celui qui n'aime pas Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute son intelligence et de toutes ses forces, comme le demande le premier commandement, ne pourra pas entrer dans le royaume des cieux. Puisons nos forces dans la contemplation de la passion du Christ que rend présente l'Eucharistie et dans la conscience que par nous-mêmes, nous ne méritons rien sinon l'enfer. Et c'est ainsi que Dieu fera tourner toute chose au bien de ceux qu'il aime vraiment. Mais pour ceux qui n'arrivent pas à faire fondre de reconnaissance la passion et la mort de Jésus, les épreuves de la vie deviennent autant de châtiments annonçant et anticipant l'enfer auquel ils se condamnent eux-mêmes en refusant d'aimer Dieu à qui nous devons tout, à commencer par le fait même d'être. Si peu d'entre nous seront sauvés, cela doit-il nous désespérer d'arriver à faire nous-mêmes notre salut? Non, car par définition, espérer signifie tendre vers un but difficile à atteindre, mais cependant accessible. Et accessible ici parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. En sorte que celui qui ne sera pas sauvé, ce sera parce qu'il n'aura pas voulu l'être, et que ne voulant pas l'être, il n'aura pas fait ce qu'il faut pour être sauvé. Mais le but est déjà atteint pour celui qui l'espère vraiment. C'est pourquoi Jésus peut dire à ses disciples « Sois sans crainte, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume des cieux. » Pourvu, évidemment, que vous lui restiez fidèles jusqu'à la mort. Dieu veut que vous espériez être du nombre des élus, si petit soit-il. Qui que vous soyez, quoi que vous ayez fait, par ma vie, oracle du Seigneur, je ne prends pas plaisir à la mort du méchant, mais à sa conversion, à ce qu'il change de conduite, pour avoir la vie, dit le prophète Ézéchiel. Ce qui compte aux yeux de Dieu, ce n'est pas votre passé, ni même votre présent, mais ce que vous désirez être maintenant. Dieu vous commande de croire en lui maintenant, de l'aimer maintenant, d'espérer sa miséricorde maintenant. À chacun de désirer le paradis pour ce qu'il vaut, c'est-à-dire plus que tout. Pour saint Ignace de Loyola, le fondement de notre salut est le devoir de louer le Seigneur, de le respecter et de le servir pour finalement être sauvé. Fin de la citation. Il y a donc un rapport entre le nombre de ceux qui louent, respectent et servent Dieu ici-bas, et celui de ceux qui seront sauvés. Or qui dira que ce dernier nombre, au regard du premier, peut être celui de la majorité? Sont-ils si nombreux, en effet, ceux qui reçoivent avec soumission les croix de la vie et savent en profiter? Sont-ils si nombreux ceux qui donnent à Dieu ce qui lui est dû, ceux qui l'aiment et le servent fidèlement, en cherchant à lui plaire en tout ce qu'ils font? S'il n'y a que peu d'élus, ce n'est donc pas dû à quelque arbitraire volonté ou nécessité divine, mais au peu de sérieux avec lequel nous aimons Dieu, à qui nous devons tout. Nombre de catholiques finissent chez le diable pour s'être laissés voler par lui grâce à leur inadvertance, leur distraction, leur insouciance, le gage de la vie éternelle qu'ils avaient reçu dans les sacrements de l'Église. Ils auront beau dire « Nous avons communié en ta présence, nous avons entendu tes enseignements », que le Maître devra leur répondre « Je ne sais pas d'où vous êtes, éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal. Et vous avez fait le mal parce que vous n'avez pas fait le bien que vous auriez pu faire. Vous avez accepté les compromissions avec le mal, en ne vous opposant pas aux mensonges qui ont conduit les enfants à l'impureté, à l'apostasie, au désespoir. Vous avez accepté la contraception, l'homosexualité, la PMA, le remariage civil des adultères, leur participation au sacrement, l'avortement et jusqu'à l'acclamation de l'Antichrist dans vos églises sous prétexte de dialogue interreligieux. Saint Paul, vous avez pourtant averti, ni impudique, ni idolâtre, ni adultère, ni dépravé, ni homosexuel, ni voleur, ni cupide, pas plus qu'ivrogne, insulteur ou rapace mériteront du royaume des cieux. Tant que nous en avons encore le temps, chers frères et sœurs, luttons pour entrer par la porte étroite que beaucoup cherchent et que peu trouvent. Bientôt, nous ne pourrons plus le faire.
Gloire à l'agneau qui m'a aimé et s'est livré pour mes péchés.